d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir, c'est Mode d'emploi avec AC, Agir ensemble contre le chômage, une émission sur le chômage et la précarité. Ce soir, nous parlerons bien sûr principalement de l'Europe, puisqu'il y a eu beaucoup d'élections au niveau de l'Europe, au niveau européen. L'Italie, l'Angleterre, avec ce vote contre, pour sortir de l'Europe. Nous parlerons donc principalement du Brexit, évidemment, également de la Grèce et de la vente des entreprises publiques, et de l'Italie avec ses Jobs Act, c'est-à-dire des emplois à la carte ou bons au ticket, quoi. Voilà. Donc, c'est tout de suite après. Et oui, on va reprendre cette émission en fanfare, puisque la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Voilà, donc ils ont voté à 51% contre le maintien de l'Europe, de l'Angleterre dans l'Europe. Christophe, tu as suivi un peu l'affaire. Qu'en est-il aujourd'hui, alors, exactement ?
Ben, c'est un peu l'histoire d'une belle jeune femme qui se fait désirer et qui plaque son mec et qui, le lendemain, le regrette. C'est un peu ça. Et puis voilà où on en est un petit peu, parce que évidemment il y a eu un, alors dans le Brexit il y a, on peut dire qu'en gros il y a trois discours. Le premier discours, c'est le discours xénophobe de repli sur soi des partis radicaux d'extrême d'origine extrême droite anglaise qui ont fait leur campagne en disant, vous savez, les 340 millions de livres que nous donnons pour les aides sociales, vous allez les récupérer. Et puis le lendemain, très drôle, qu'est-ce qu'ils font ? Ah ben non, ça va pas être pour tout de suite. On nous aurait menti. Sachant qu'ils ont fait des grandes affiches là-dessus pour leur ticket d'entrée dans leur discours de propagande électorale. Évidemment, ça a plu aux couches de population les plus précarisées, puisque près de plus de 60%, 70% des Anglais ayant de catégories socio-professionnelles, ouvrières, employées ou pas du tout diplômées du supérieur, on dit non, parce que c'est eux qui sont les premiers victimes de la précarisation du marché de l'emploi dans une logique ultra-libérale. Hein. C'est, voilà, on est en Angleterre. Oui. Sachant qu'en France, on est quasiment au même type de situation avec des protections sociales plus importantes, on va dire, pour l'instant. Mais le problème, c'est que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment historique. C'est-à-dire que les Anglais... J'ai un collègue dont je dirais pas de nom qui me disait, c'est une habitude très anglaise dans l'histoire de l'Angleterre, hein, de relations dans l'Europe, de faire on fait les cons et puis ensuite on s'arrange pour qu'après que ça soit bien vu, que ça soit minimisé. Sauf que là il y a des enjeux politiques et de pouvoir très 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 importants. Le premier, c'est que David Cameron, d'abord, est grillé politiquement parce que c'était lui, bah il a fait sa dissolution à la Chirac, quoi, mais en plus mieux. Et donc, il passe pour un loser à la Chambre des Lords, donc des députés. Et ce qui est très drôle, si tu veux, c'est que ils se rendent compte que à la base, c'est la City qui crée énormément de produits intérieurs bruts. Donc tout ce qui était du domaine de la finance. Et évidemment, les mecs ont anticipé le Brexit. Ça veut dire que l'immobilier de luxe en France a commencé à repartir à la hausse, sachant que l'année dernière, il avait chuté de 15 à 20%. Parce que la France, avec notamment son complexe de la défense, hein, a une grosse carte à jouer pour rapatrier une partie des traders et des employés de ce secteur de l'économie qui pourraient booster sa croissance, sachant qu'ils vont perdre de l'argent. Sauf que ça peut avoir un effet domino. Donc, si tu veux, politiquement, François Hollande, il est dans une logique, ils sont partis, c'est bien. On va récupérer un peu de leur argent, sachant que leur niveau de vie va effectivement baisser, parce qu'il y aura des sanctions économiques de fait.
Mais il faut savoir qu'historiquement, ils n'avaient jamais été vraiment dans l'Europe, puisque dès le départ, ils disent « nous sommes avec vous, mais pas des vôtres », au moment de la création, au moment où ils sont...
Ouais.
Voilà. Donc dès le départ, ils avaient la livre sterling, mais ils l'ont gardé, donc voilà.
Deuxièmement,
là, il y a quand même un marché, excuse-moi de te couper, mais il y a un marché quand même qui est un marché linguistique aussi au niveau de l'Europe, au niveau des traités qui se font en Europe. C'est-à-dire que les deux langues les plus répandues au niveau des traités, c'est le français et l'anglais. Et l'anglais prenait une part de plus en plus importante. Et là, à ton avis, est-ce qu'il va y avoir un changement dans les situations?
Non. C'est un enjeu de politique économique. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'on fait la même politique logique liée par le FMI et les thèses libérales de dérégulation du marché du travail, des biens et des personnes dans l'espace européen, mais aussi dans d'autres espaces, avec toutes les conséquences que ça a au niveau endémique en ce qui concerne le chômage de masse, la précarisation des contrats et des droits qui y sont associés, hein, ainsi que des conventions collectives, des accords de branche, etc. C'est ce qu'on voit dans la loi M. Khomri, hein, et le fameux article 2. Il y a une logique derrière ça. Le problème, si tu veux, c'est que pour moi, il y a 3 scénarios qui sont possibles. Premièrement, c'est une leçon de l'histoire, c'est-à-dire que les partis qui veulent sortir de l'Europe pour dire... dans un élan souverain, hein, je veux dire, un élan libéral et souverain, je pense par exemple au Front National, vont profiter de cet aubaine, ou alors des partis d'extrême droite très bien implantés aux Pays-Bas, vont dire c'est l'occasion et ça va foutre un bordel monumental, et là ça va avoir une déstabilisation politique, parce qu'il y en a un qui va en profiter forcément, c'est Vladimir Poutine, qui lui se réjouit, sans le dire, de cette situation. Et puis, il y a une deuxième solution, c'est qu'effectivement, ça rebooste l'économie, mais le problème de fond, c'est le changement de politique monétaire et macro et microéconomique de la Banque Centrale Européenne et puis des 27, quoi. Je veux dire, c'est du délire. Qu'est-ce que c'est que cette directive Bolkestein, sans protection au droit? Qu'est-ce que c'est que cette déstabilisation des marchés? Enfin, bref, voilà, quoi. Donc, au nom du libéralisme, là, il y a une question fondamentale. C'est pour ça que lorsque d'autres personnes... le parti qu'on accuse dit de gauchisme ou de populisme redisent c'est une occasion unique pour renégocier des traités, notamment le fameux traité de Lisbonne qui a donné des prérogatives aux patronats et aux grandes entreprises dans l'accès du marché du travail. C'est aussi une occasion historique pour refaire un mieux-disant social. Mais est-ce qu'on en a la force et la volonté?
Tu veux dire que l'Angleterre est sortie de l'Europe pour des raisons xénophobes, de mauvaises raisons, on va dire? Mais il y a peut-être aussi une façon de réfléchir à une nouvelle Europe. Ça fait boule de neige pour le coup. Donc ils s'en prennent.
Je veux dire, bien sûr que le référendum en Angleterre, la peur, le non, c'est quand même appuyé sur la peur de l'immigration massive, et toute cette campagne est hontée. Il n'y a pas de doute. Mais si vous voulez, quand vous organisez un référendum après 5 ans de crise, un plan d'austérité qui est dévastateur en fait pour les classes populaires, puisque c'était quand même malheureusement l'austérité elle a concerné effectivement la dépense publique des collectivités locales en Angleterre, mais donc c'est-à-dire les piscines, ce genre de choses, mais en termes d'aide sociale ça a été des coupes franches et massives, hein.
C'était une saignée monumentale.
L'Angleterre voulait ramener son déficit à 2% du PIB juste après la crise, donc c'était phénoménal, et on peut se demander dans quelle mesure elle en était réduite là, parce qu'elle n'avait pas les contraintes de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de laisser flotter sa livre, ce qu'elle a fait, qui a d'ailleurs effectivement pas mal baissé. Mais c'est une façon très anglaise aussi de pratiquer des politiques économiques orthodoxes dans certains moments, et donc effectivement déficit budgétaire. Alors ce qu'on dit pas, c'est que la bonne santé, relative, très très relative de l'économie anglaise aujourd'hui, en comparaison de l'économie française en termes de taux de chômage, c'est qu'elle elle est liée, selon des journaux très très orthodoxes comme Le Monde, à justement un dérapage des déficits publics. C'est-à-dire qu'en réalité, le déficit public anglais est encore à 5%. Et donc, ce qui montre bien que les politiques keynésiennes de laisser filer le déficit en période de crise, c'est pas complètement imbécile, dans le cas anglais en tout cas. Et donc faites un référendum juste après ces contextes d'austérité, c'est sûr, ça fait un peu penser au référendum en France en 2005, la crise en moins, mais où tout le monde dit tout va bien, tout va mieux en tout cas en 2005. Et puis il y a une partie de la société en bas qui vous dit non, ça va pas très bien, parce que au référendum de 2005, certains géographes ont dit, mais finalement, il y a une conversion, si vous voulez. L'idée européenne était très, et c'est valable, ce que je dis est valable pour l'Angleterre, c'est-à-dire que l'idée européenne était très bien vue par les classes les plus les plus populaires en fait. Alors particulièrement en Angleterre comme un remède à la casse des après les années thatchériennes, comme
la casse du travail, du code, l'équivalent du
pas même pas du
code
du travail, la casse de l'industrie hein, oui, de l'époque oui. thatchérienne. Donc la base travailliste était favorable à l'Union européenne comme remède et comme protection en fait à cette espèce de libéralisme débridé. Donc évidemment les Anglais, enfin les conservateurs britanniques ont joué contre. C'est-à-dire que leur obsession a quand même été de préserver leurs prérogatives, notamment financières avec la City, mais aussi en tout ce qui concernait les normes sociales. Hein. Margaret Thatcher était très claire sur cette question. Et à la fin, c'est un retournement de manivelle, c'est-à-dire que la précarité est gagnant des couches de plus en plus importantes de la société anglaise. En définitive, c'est la base populaire, y compris du Parti travailliste, qui rejette l'idée européenne, alors pas forcément pour de bonnes raisons, hein, vu d'ici, on a envie de dire, mais alors que l'Angleterre, effectivement, comme tu le disais et comme le rappelait le monde diplomatique du mois de juillet, a influé dans, enfin, sur la construction de l'Europe de façon, c'est à l'Angleterre qu'on doit ce marché libre-échangisme, et juste ce marché libre-échangisme, c'est-à-dire d'une Europe politique absente, c'est probablement à l'Angleterre qu'on doit l'élargissement. De l'Europe au 27, hein, c'est ce que
un monde libre-échangiste faisait bien des personnes et
c'est ce que disent sans le dire même les responsables français, hein, voilà. Donc donc voilà, donc effectivement l'idée européenne a du plomb dans l'aile, mais sans qu'on effectivement puisque elle reste cette espèce de super père fouettard, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, voilà, c'est selon.
Oui, mais ils sont les premiers à sortir, mais peut-être qu'ils vont lancer une sorte d'idée générale où plein de pays vont peut-être les suivre a priori. C'est-à-dire que l'Irlande peut se réunifier, enfin, pas tout de suite maintenant, hein, mais je veux dire que d'autres pays peuvent suivre et que là, finalement, ça leur donne une occasion peut-être de réfléchir à une nouvelle Europe, une Europe plus solidaire et sociale, par exemple. Alors, j'arrive un peu, mais...
Moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est la réaction des... Enfin, ou... Même pas la réaction, c'est l'anticipation de donc en France, c'est-à-dire et ce qui montre un peu les tenants de enfin qui sont les tenants de l'idée européenne en France, c'est avant, c'est-à-dire c'est des éléments de langage qu'on retrouve un peu partout dans les médias, comme par hasard sur la question européenne, où tout d'un coup l'appartenance à l'Europe ou à cette Europe-là en tout cas ouais. serait irréversible. Donc selon par exemple Jacques Attali, et serait au titre irréversible au même titre que la démocratie ou l'abolition de la peine de mort. Quelle que soit en fait l'issue d'un référendum, et ça veut bien dire ce qu'en pensent en fait nos élites. Hein. C'est-à-dire quand on parle de nouvelle Europe, il ne faudra pas compter sur nos partis politiques actuels pour la négocier ou pour la faire. Et ensuite, ce que je voulais ajouter, c'est que la sortie elle-même, bien sûr, mais que la sortie elle-même de l'Union européenne, enfin selon certains commentateurs, prendra 2 ans. Et que il est quand même bien question de la négocier sérieusement pour qu'on sorte sans sortir en fait. Hein. Voilà, mais là-dessus rien n'est sûr puisque l'Europe est quand même, les députés européens en tout cas sont suffisamment remontés pour faire sentir à l'Angleterre, disons que elle est quand même un frein à la construction politique européenne. Et donc il y a quand même une volonté très claire de mettre au banc à la fois les députés anglais et les commissaires européens anglais qui sont très nombreux et qui occupent des places stratégiques, donc notamment pour la protection
parce que
des
derrière,
consommateurs.
Il y a eu les petits sangs de Thatcher qui ont investi la Commission européenne, ça a fait historique.
Mais surtout à des postes
qui sont très forts.
Ce qui est étonnant, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est qu'on a affaire au club de pensée anglo-saxon du libéralisme plus débridé pour un développement économique qui est basé sur la redistribution des richesses produites au profit du capital, par exemple par la City. Et c'est ces gens-là qui en disent ensuite « Ah bah oui, mais comme il n'y a pas assez de profit, même si on s'enrichit, on va se barrer. » C'est assez drôle. C'est assez drôle.
Oui, enfin bon, sauf qu'en Angleterre, ils risquent pas grand-chose. Ils peuvent essayer d'aller aux États-Unis.
Tu voulais terminer sur le... Non, c'est bon. On peut passer une petite chanson peut-être ?
Oui. On reviendra sur le Brexit ensuite.
Jean Massion, tout à l'heure.
C'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon.
Et Et oui, c'était donc Léo Ferré, c'était Edeclou, donc une excellente chanson, un excellent chanteur, évidemment mon préféré. On reprend cette émission, c'est Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires sur Fréquence Paris Pluriel avec donc Ludo, Christophe au micro. Bonjour à tous les deux.
Rebonjour.
Voilà.
Bonsoir.
Également moi-même Gilles et puis à la technique donc
Claude.
Claude, merci. Et Nadège. Voilà. Donc on reprend cette émission. Voilà, l'apprenti.
Alors sur le Brexit.
On va non, on reprend pas sur le Brexit. On va peut-être parler peut-être de l'Italie si tu veux bien.
ouais, moi j'irais pour reparler du Brexit.
Ou la Grèce, si tu dois faire comme tu veux. C'est au choix, voilà.
C'est au choix.
On est démocrate.
Choix, d'accord. Voilà. Bon, alors, je vais parler d'Italie.
Alors l'Italie.
Et oui, alors. Parce qu'on est. Et oui, c'est, comme vous avez compris, on parle d'Europe ce soir. Et donc, on parle de l'Italie parce qu'il y a encore eu des. Il y a aussi eu des élections là-bas, mais c'était des élections municipales qui ont eu la victoire. Horreur, malheur, du mouvement populiste, selon ses adversaires, de Monsieur Pepo Grini. Voilà, le mouvement 5 étoiles. Alors, pourquoi on en parle en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que pendant tous les débats sur la loi El Khomri, les commentateurs ont cité très très sérieusement les progrès de l'Italie grâce à la réforme de Matteo Renzi, la réforme du marché du travail, qu'il appelle comme ça pour faire moderne, Job Act.
Qu'est-ce que c'est?
Alors justement, c'est simple. Je vais t'expliquer ça. En fait, c'est la réforme du travail. Enfin, c'est la loi El Khomri en mieux.
En pire,
tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre, bien sûr. Alors, en fait, la loi. Donc, quand même, hein, effectivement, les arguments de la loi El Khomri, c'est qu'en Italie, Monsieur Matteo Renzi aurait créé quelque chose comme 500 000 emplois depuis la création, depuis sa réforme du travail. Je crois, hein, 500 000, ouais. Sauf que, il faut bien comprendre en fait que si vous avez manifesté contre le CPE quand vous étiez jeune, je le dis aux auditeurs, eh bien, imaginez bien que le CPE est passé en Italie, sauf qu'il est pour toute la population. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce nouveau CDI, cette réforme du CDI,
italien.
À l'italienne, s'est accompagné en fait d'une période on va dire probatoire de 3 ans durant laquelle le patron en fait pouvait effectivement virer son embauché, son salarié sans motif valable.
Ça ne reste qu'au secteur privé.
Oui. Mais en italien. Hein. Mais du coup, effectivement, vous avez une période d'essai de 3 ans, ce qui est quand même énorme, et ce qui est évidemment illégal par rapport aux normes du Bureau international du travail, qui sont mieux que les normes européennes.
C'est vrai.
mais disent donc les partisans hein, de cette réforme, ce CDI a marché. Alors, pourquoi a-t-il marché? Est-ce que quelqu'un ici a une idée du comment on fait marcher un contrat de travail et pourquoi, tout d'un coup, il y a des embauches? C'est un quiz, hein.
On fait un CDI light, hein. Non?
Bon, ça, c'est fait, ouais.
Ok. Donc,
non, mais c'est vrai. Pourquoi une réforme du travail, tout d'un coup?
Parce qu'ici,
on dit que, à mode d'emploi, mais pas qu'ici, on dit que jouer sur la réglementation du travail ne sert à rien. Mais là, vous avez un exemple contraire. Il vous dit la preuve que si, puisque...
Parce qu'il y a une baisse généralisée des salaires.
Alors, c'est pas exactement ça, mais... Enfin, tu n'es pas dans le genre. Oui, effectivement, c'est une motivation pécuniaire.
Ils ont mis des bons de travail à 10 euros, c'est ça?
Alors ça, c'est... Non, ça, c'est
pas ça l'idée.
Ça, c'est pour vraiment les losers. C'est pas pour les gens qui sont en CDI. Non, parce qu'en fait, au moment où la réforme a été mise en place en 2015, le patron qui faisait signer le CDI avait une incitation fiscale. Ah oui. Il pouvait économiser jusqu'à 8 000 euros par an.
C'est ça.
D'accord.
Voilà. Donc, 8 000 euros par an. Alors, sur un salaire. Alors c'est bon, 8000 euros par an sur toute l'Italie, ça peut, enfin sur chaque CDI, mais c'est l'italienne, ça peut représenter pas mal. Hein,
c'est beaucoup.
En termes de pouvoir d'achat, c'est pas les mêmes comparaisons qu'en France.
Tu calcules un salaire à 1000 euros par salarié, oui, c'est.
Voilà, donc c'est ça peut représenter pas mal.
Sauf que ça fait gonfler, exploser, je présume, le déficit.
Exactement. Ça a été très très coûteux et donc il a été revu à la baisse en 2016. Alors en fait, c'est ça qui est écrit une très clairement d'après les chiffres hein, qui de donc qui sortent hein, de l'Institut national statistique italienne qui a provoqué un effet d'aubaine hein, puisqu'en fait en 2016 loi d'austérité oblige, on est passé à 3300 euros par an donc par CDI
d'aide fiscale, oui.
Donc on appelle ça un contrat à protection croissante. La sémantique est importante.
C'est joli.
Voilà, et qui permet effectivement de licencier son salarié sans justification. Et donc, effectivement, il devient plus rentable en fait que le CDD, qui est déjà, qui n'a pas les mêmes normes qu'en France, qui est déjà très, enfin, dont on peut effectivement recourir très, 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 très largement au CDD en Italie.
Mais moi, j'ai une question.
Je vais finir. Donc, du coup, les chiffres en fait montrent que immédiatement après la signature en 2016, les embauches ont chuté dans des proportions qui sont extrêmement significative, voilà, puisque ça s'est ralenti de 2/3 en fait hein, l'augmentation de voilà, et du coup ça je parle juste du CDI, sachant qu'en fait en Italie il existe, on en parlera après hein, après Christophe, des façons d'utiliser le CDD de façon répétitive, voir effectivement de travail à la tâche, le retour du travail à la tâche dont tu parlais.
Ouais. C'est le CDD à vie, quoi. C'est un peu ça l'idée.
C'est un peu ça, la retraite, tout à fait, tout à fait.
Non, mais c'est la logique de l'article, je sais plus quel article, du traité de Lisbonne, à savoir individualiser le contrat du salarié.
Alors oui, sauf que là, le problème, c'est que c'est des normes collectives. Oui, alors effectivement, à la fin, on peut dire ça, puisque si tu as une période d'essai de 3 ans, on peut considérer que pendant 3 ans, tu es réellement en face à face et à la merci de ton employeur. Ça, c'est sûr.
Alors là, si excuse-moi de t'interrompre, je crois qu'ils sont au vote de la 40e loi sur le travail pour élargir l'éventail des contrats disponibles. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des dizaines de milliers de contrats différents.
Alors, c'est donc, ça, c'est qu'en fait, les coups de canif au contrat unique, en fait, ont été multiples, hein, depuis, ça. Donc, en fait, depuis les années 80. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils ont suivi la même évolution qu'en France. Et d'ailleurs, la même évolution, c'est-à-dire qu'on n'indexait plus les augmentations de salaire, en fait, sur la hausse des prix. Ou, enfin, dans une très moindre mesure, sachant qu'en fait l'Italie à l'époque était la championne du monde de l'inflation, donc ça a eu un effet notoire hein, sur la bonne santé des salariés italiens. Donc effectivement, c'était un contrat atypique qui, comme par hasard au début, était destiné aux jeunes, qui s'appelait contrat de formation et de travail. Aujourd'hui, donc effectivement, il y en a une quarantaine. Et en 97, on a légalisé le travail temporaire. Et en 2003. On a inventé le contrat de sous-traitance.
C'est ça.
Donc, vous voyez, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un d'autre, récupérer le marché. Et en 2008, on a mis en place un système que excusez-moi pour la chambre, de vouchée. Je sais pas exactement comment ça se dit en italien. C'est des bons de travail d'une valeur de 10 euros brut de l'heure, hein, utilisés dans les secteurs peu ou pas qualifiés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ce genre de bons existe en France, ça s'appelle les chèques emploi-service.
Exact.
Sauf que le chèque emploi-service en France donne droit finalement à un CDI. C'est-à-dire qu'il faut une raison valable, donc pour par exemple les assistantes maternelles, pour rompre le contrat, donc typiquement que l'enfant est grandi, est déménagé, etc. Là, c'est vraiment un retour du travail à la tâche sur des petits bouts. Alors, effectivement, les contrats le CDD a été élargi de telle sorte que désormais faire signer un CDD n'est pas lié en fait au salarié. C'est pas le salarié qui signe un nombre défini de CDD, mais c'est lié au poste de travail.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas signer un certain nombre de CDD quand on sur un même poste de travail. Sauf astuce, en fait, il a suffi aux employeurs italiens de changer l'intitulé de poste pour
en termes de droit, oui.
Voilà, pour simplement multiplier en fait l'usage du CDD sur un même salarié et d'une certaine façon
donc
le CDD,
technicien de surface, tu passes à soldat des tâches ménagères.
Voilà. Donc il y a eu très clairement en 2014-2015 une institutionnalisation de de la précarité. Alors évidemment, en 2010, la loi dite du travail lié avait, comme en France, limité le recours, les possibilités pour le salarié de recourir à la justice en cas d'abus patronal. Hein. Un peu les mêmes réformes. Et en 2012, on a facilité les licenciements individuels pour raisons économiques. Voilà, donc, et avant finalement de s'attaquer au CDI, évidemment avec l'effet d'aubaine qui a conduit en définitive les employeurs à considérer que le CDI tel qu'il existait, avec parce qu'une période de 3 ans d'essai, excusez-moi, mais c'est quand même tout bonheur, et avec l'incitation fiscale, à considérer que les employeurs ont considéré que le CDI était plus rentable finalement que le CDD. Voilà. Et du coup, la seule différence avec le CPE, c'est qu'effectivement, le dispositif italien ne se limite pas aux moins de 26 ans, mais il concerne l'essentiel de la main-d'œuvre. Voilà, voilà. Et alors, il reste évidemment le problème du chômage des jeunes, parce que ce CDI, voilà, n'a rien réglé en termes de chômage des jeunes. L'Italie est un des pays qui est le plus concerné par le chômage des jeunes, par le chômage des jeunes qualifiés, hein, ouais. Comme non qualifiés. Donc on atteint des sommes records, donc effectivement 40%, ce qui est énorme.
40%, ce qui est énorme.
Sachant qu'en fait là on a trouvé un système qui était quand même plus adapté aux jeunes, c'est qu'on leur a promis un parcours d'insertion sur la longue durée et un parcours d'insertion en fait qui s'accompagne de stages, mais gratuits,
ouais,
de formation après la fin des études initiales, ce qui...
Je crois qu'il y a trois niveaux pour les jeunes, c'est les très diplômés, les moyens diplômés et puis les pas diplômés.
Oui, tout à fait,
tout
à fait. Alors, effectivement, là, on parle... Le problème, c'est que là, on parle des diplômés, en fait. Ah, moyennement diplômés. Non, mais c'est pour dire que le parcours de l'emploi est un...
Parcours
du combattant.
Donc là, si je comprends bien, toutes ces lois sur le travail donnent encore plus de pouvoir aux employeurs finalement. Alors pour le coup.
Ah oui, non, mais complètement. Ouais. Mais surtout, le problème, c'est que à l'entrée en fait du marché du travail, toute une catégorie de jeunes, certains économistes estiment que finalement, on va vers du travail gratuit dans les premières années de ton, jusqu'à ce que tu, ouais. En quelque sorte, tu sois rentable ou que tu fasses ta place. Or, l'auteur de cet article, qui est italien.
On rappelle que c'est le monde diplomatique.
Ouais, c'est le monde diplomatique, ouais, Andrea Fumagalli, conclut son article en disant que, en fait, finalement, la courbe du chômage, depuis les crises, s'est très légèrement inversée, simplement à 1,8. Voilà. Et cette diminution modeste, hein, s'explique en partie, en réalité, parce que les gens qu'on vient d'embaucher via le CDI n'ont pas encore fini leur période d'essai et qu'il faudra bien attendre à un moment donné, en 2018, pour voir ce qu'il en sera de tous ces contrats qui ont été signés. Sachant qu'on a comme l'exemple du CNE, qui était le précédent du CPE, et que les trois quarts des CNE n'avaient pas été embauché, réembauché par la suite. Hein.
Absolument.
Voilà. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire. Le chiffre que je cherchais, c'était celui-là. Donc on est passé effectivement. Le nombre de CDI signés en 2016 a chuté de 77% après la réforme. Ce qui indique bien que
parce qu'en fait, les employeurs n'auront plus que 3 700 € de
3 300 €.
3 300. Voilà. Très bien. Ben merci Ludo pour ces informations. Tu voulais rajouter quelque chose, Christophe, sur
c'est encore une logique du profit ultralibéral. C'est une politique économique qu'on vit depuis à peu près 20 ans et qui marche pas, quoi. Donc, quand on s'interrogera pas sur le débat sur les inégalités sociales et la réduction du temps de travail et la répartition des richesses, ainsi que les recettes fiscales commune, hein, sur un socle commun dans l'espace européen, on aboutira toujours à la même problématique.
Donc tu es pour que l'Italie sorte de l'Europe aussi, alors finalement?
Non, je Moi suis si. Pour une Europe au mieux disant sociale. Voilà, c'est très keynésienne, à savoir que l'État joue son rôle de régulateur économique.
Je vais juste une précision, il n'y a pas de RSA en Italie. Ah, voilà, donc c'est-à-dire que le seuil il n'y a pas le seuil de pauvreté, c'est vraiment le seuil de pauvreté.
Donc c'est des gens qui vivent avec 5 euros par jour.
Qui ont des allocations, en tout cas, en ce qui concerne le monde du travail, en dehors des indemnités chômage, il n'y a rien d'autre.
Allez, on s'écoute une petite chanson, on reprend la parole par la suite. Merci. Rebonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence, Paris Pluriel 106.3 FM, dans la mission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, avec AC, Agir Ensemble contre le chômage. Je suis toujours avec Ludo et Christophe au micro. Bonjour à tous les deux, à nouveau.
Bonsoir.
Ouais. Pour ceux qui nous rejoignent à l'antenne, Gilles également au micro. Et puis à la technique, donc Claude et Nadège, voilà une nouvelle. C'est pour la faire rire. Voilà. Donc on reprend cette émission pour parler maintenant évidemment de quelque chose qui va un peu nous fâcher, parce que c'est l'histoire de la Grèce avec Syriza qui est arrivé au pouvoir, une vague de privatisation qui a fait chuter les salaires, dégrader les conditions de travail et accru les inégalités des revenus, entre autres. Tu as épluché un peu le système, Christophe, que peux-tu nous en dire?
Alors c'est un article du Monde diplomatique de ce mois-ci qui est très intéressant. Comme dirait M. Gattaz, il faut réformer. Et comme il faut réformer, il y a une grande braderie en Grèce. Alors, on va rappeler un peu ce qui s'est passé à l'arrivée de Syriza au pouvoir, donc parti anticapitaliste, bien à gauche, etc. Il y a eu un didacte des commissaires européens et de la Commission européenne de Bruxelles, du genre... Oui, ça fait des années que vous faites comme sport national les Grecs, et c'est pas faux, hein. L'escroquerie fiscale, vous déclarez pas vos impôts, vous demandez toujours du pognon à l'Union européenne, patati et patata, il faut réformer, vous avez de très beaux bijoux de famille, vendez-les. La liberté du marché. Formidable.
Principalement les entreprises publiques, hein, a priori.
Les bijoux de famille, c'est ce qui appartient à l'État.
C'est ça.
Voilà.
Moi, c'est pour les...
Donc on parle de l'eau, des transports, de l'armée, enfin bref. Tout ce que fait un État pour structurer une société et un pays.
Ouais, enfin, l'armée, pas trop, à mon avis.
Oui. Donc, splendide. Donc, on va vendre ce qui est nécessaire pour le redressement économique de la Grèce. Donc, ces braves gens de Syriza se sont trouvés un peu le revolver sur la tempe. Hein, il y a eu les exigences des partenaires européens en disant oui, vos déficits, vous vivez tout le temps à crédit, c'est terminé. Désormais, vos décisions budgétaires. En fait, la Grèce, de fait, au nom de la. T'imagines la contradiction au nom de la liberté économique des capitaux, des biens, des personnes, des marchandises et des services, se retrouve soumise à tout accord préalable de sa politique économique souveraine de par les injonctions de Bruxelles.
Il y a une époque, le Parlement pouvait plus rien voter. Il devait attendre l'autorisation.
Absolument. C'est une contradiction profonde. C'est une contradiction idéologique totale liée à la notion de libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté. Ah oui, mais c'est la liberté, mais vous faites ce qu'on vous dit. C'est intéressant.
Pas de liberté financière, en tout cas.
Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe depuis à peu près un an? Eh bien... il y a un transfert de propriété absolument historique en Grèce de certains avoirs privatisés qui sont assez conséquents. Et là, il y a un article de Niels Kapdrik, je m'excuse pour mal prononcer son nom. En fait, voilà ce qu'il dit. Il y a une étude de Transnational Institute, c'est sur l'industrie. C'est un cabinet de consulting qui est spécialisé dans tout ce qui est du domaine de la privatisation. Et en février 2016, pourtant c'est des consultants économiques, donc des experts en économie, ces gens-là. C'est comme les grands cabinets qu'on connaît, Lehman Brothers, mondialement connus.
C'est une banque, dans Lehman Brothers.
Oui, mais c'est aussi des consultants pour des préconisations économiques. Hein. Lehman Brothers disait à un moment donné, la Grèce est solvable, etc. Faut pas l'oublier. Hein. Donc sur les préconisations financières, budgétaires, etc. Et donc voilà ce qu'ils disent. Pourtant c'est un peu contraire. On nous aurait menti sur le libéralisme économique et ses bienfaits, hein, en termes de prospérité. Qu'est-ce qu'ils disent? Je cite. Il n'existe aucune preuve démontrant que les entreprises privatisées fournissent un service plus efficace. En revanche, la vague de privatisation fait chuter les salaires, dégrade les conditions de travail et accroît les inégalités des revenus. Or, on nous aurait menti. Hein. Alors, voilà ce qui... Et ils disent, l'auteur de l'article dit, à cet égard, la Grèce constitue un cas d'école. Et oui, effectivement, que se passe-t-il? À cause de la crise provoquée par son endettement, hein, qui est endémique, parce que la Grèce vit au-dessus de ses moyens, et puis ils ont un petit peu abusé, ils ont eu une armée extrêmement modernes, surdimensionnées par rapport à leur pays. Enfin bref.
Enfin, il faut quand même compter avec le fait que la Grèce n'a pas un système de prélèvement des impôts comme, enfin, une administration fiscale comme en France. Hein. Notamment, la collecte de la TVA pose de sacrés problèmes.
Absolument.
Et puis l'évasion fiscale, elle est européenne.
Absolument.
Ça, les armateurs grecs, ils s'en moquent un peu. Hein,
ce sont des milliardaires. Il faut pas l'oublier. Donc, le pays se voit contraint de vendre au plus offrant le plus grand nombre possible de ses entreprises publiques ou parapubliques dans le seul objectif d'honorer ses remboursements que lui a ordonné la Commission de Bruxelles.
Aux créanciers, principalement.
C'est créanciers.
Oui, c'est l'aide économique européenne. Rembourse d'abord les banques françaises, allemandes.
Alors, l'auteur de l'étude remarque qu'en général, lorsque ce type d'injonction économique est fait par des grands manitous d'organisations administratives, que ce soit la Commission de Bruxelles ou le FMI, hein, parce que le FMI pratique la même politique, hein, faut pas rêver, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la privatisation réunit tous les critères d'un abus de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va donner un exemple, comme quoi le client est roi. En fait, voilà ce qui s'est passé. La vente de 60% des parts d'une société du port du Péri, parce que les armateurs grecs sont réputés au niveau international, hein, les ports grecs sont modernes, n'a été fait que par un groupe chinois, China Ocean Shipping Company, COSCO. Donc le port du Péri est un des plus importants ports
de Grèce, bien sûr,
avec un tonnage assez conséquent. Hein, et en fait, ces gens-là ont été les seuls mandataires financiers pour reprendre la gestion de ce port.
Mais il n'y a pas eu d'appel d'offres.
Il y a eu un appel d'offres, mais il n'y avait qu'un seul client.
Mais c'est ça, voilà.
Très intéressant. Tu vois, voilà. Et alors, on a fait quasiment pareil pour la concession des 14 aéroports du consortium privé, puisque le tourisme grec est quand même une manne financière assez conséquente, notamment avec certaines îles et son histoire, son patrimoine archéologique. Et là, il y avait 14 aéroports avec un consortium privé qui est dominé par le groupe allemand Fraport. Ah tiens, les Allemands reviennent. Donc voilà ce qui s'est... On va donner l'exemple du port. Hein. L'acquisition du Péri par COSCO, qui est l'entreprise d'État chinoise, s'est déroulée en vertu d'une procédure qui caractérise la vente des bijoux de famille de l'État grec. Hein. Voilà. Bah, déjà, comme je l'ai dit, il n'y avait qu'un seul candidat. En plus, les Chinois, ça pose quand même un petit problème géopolitique, c'est que dans cette opération, ils ont négocié en termes de contrat. Vous savez ce qu'ils ont négocié?
Non, tu vas nous le dire, oui.
Le contrôle absolu du port.
D'accord.
Ouais. L'État grec n'a plus son mot à dire. Voilà, merci, au revoir.
Donc c'est une mise sous tutelle complète, quoi.
Ah oui, d'accord. Grâce à une confortable concession de 35 ans. En fait, l'entreprise d'État chinoise a déboursé 368 millions d'euros. Alors on peut dire, c'est quand même assez conséquent. Sauf que par rapport à la valeur du port, des activités portuaires du Pirée, il s'avère que c'est ridicule. Hein, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros. Hein.
Ça fait penser à la privatisation des autoroutes en France.
C'est-à-dire que l'agence grecque, publique grecque, le TPED, je ne sais pas ce que c'est en termes d'abréviation, qui estime la valeur totale des actifs, hein, eux, a effectivement estimé à 1,5 milliard d'euros. Et on ne sait pas où est passé, pourquoi on a sorti du chapeau 368 millions d'euros pour l'entreprise d'État chinoise Cisco. Ça s'est fait dans une totale
opacité.
Sachant que une partie des recettes fiscales qui sont liées à la notion de souveraineté grecque rentreront dans cette entreprise d'État chinoise. Vous imaginez demain un pays, les Américains débarquent et rachètent
Le port de Marseille,
et ils disent les taxes, les droits de douane, c'est nous qui les avons.
Et du coup, et les normes de travail aussi, c'est ça aussi.
C'est un petit peu ça aussi, c'est assez délirant. Alors, en plus, apparemment, il s'avère que l'organisation libre pétrolière, l'OLP, parce qu'il y a des gazoducs là-bas, etc., verse quand même une rente de 35 millions d'euros par an. Donc, t'imagines, l'OLP, hein. Tout ce qui est du domaine du pétrole qui arrive, 35 millions par an, c'est une concession de 35 ans, ça fait minimum un bénéfice d'environ 1,2 milliard d'euros. Donc tu te dis, mais comment se fait-il qu'on ait vendu ça 368 millions? Sachant que sur 35 ans, ils ont 1,2 milliard d'euros qui rentrent automatiquement. C'est absolument incroyable. Et alors, évidemment, le propriétaire va avoir ça. Et en plus, il y a un autre exemple, c'est les aéroports dont je parlais. Alors là, c'est encore plus beau, puisqu'il y a eu des études qui ont été menées qui fait du tourisme en Grèce et de certaines îles comme Ita, comme Mino, enfin comme la Crète, etc. Il s'avère que dans les 5 à 10 ans à venir, il va avoir une augmentation de 20% du trafic. Donc, les aéroports grecs, ça fait gagner de l'argent. Hein. Et donc, on estimait que l'ensemble de ces 14 aéroports avait une valeur marchande minimale de 700 millions d'euros. Sauf que, en plus, sachant que l'Union européenne donne 115 millions d'euros de subventions pour faire vivre cette industrie d'aéroports. Donc, ça fait 815 millions d'euros. Donc, tu te dis, par an, et sachant que là-dessus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y aurait à peu près 6 milliards d'euros de rentrées fiscales supplémentaires, de rentrées liées à cette industrie d'aéroports, hein, sur 10 ans du fait du développement du tourisme. Alors, je donne des chiffres. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'annonce des milliards, hein, ça fait à peu près en tout 7 milliards. Bah, devinez quoi ? Il y a un oligarque grec qui a décidé de verser que 1,2 milliard d'euros pour acheter tout. Sachant qu'au départ, tu avais des aéroports grecs qui étaient en déficit. Donc l'État grec avait dit, ben non, hein, vous prenez aussi, au nom du service public, vous prenez le passif et vous prenez aussi les aéroports qui ne gagnent pas assez d'argent. Parce qu'on est dans une notion de plus... Et puis, c'est arrivé. Ah non, non, non.
Je ne prends que les marches, que ceux qui marchent, en fait.
Voilà, les trucs rentables et puis déficit, voilà, non. Il y avait un équilibre. Ben, non. Donc, il s'avère, en fait, que ceux qui ont magouillé, parce que c'est une véritable magouille, c'est une entreprise de consulting qui appartient, en termes de part de marché, en termes d'action, à Lufthansa et à l'État allemand. C'est eux qui ont prédit des études bidons pour avoir le marché. Et en fait, c'est les Allemands qui vont récupérer ça, sachant que bon, bah voilà, c'est une véritable, un véritable solde. C'est des soldes pour les prédateurs internationaux et de l'économie du clientélisme. Il y a de la place pour une troisième motion. C'est la conclusion de l'article de l'auteur. Alors, je vais vous dire encore une autre petite douceur pour... Bien vous
pour qu'on soit bien
voilà informé hein.
Que le moral remonte quoi
que le moral remonte Fraport qui est donc la société allemande qui va faire tourner cette machine à cash des 14 aéroports a négocié une exonération du paiement des taxes foncières locales qui sont des obligations financières de base donc vous imaginez la Grèce et ses collectivités territoriales elle est fortement endettée et on lui dit eh ben non tes taxes de séjour, tes taxes de passage, non, il n'y en a plus. Hein. Et en plus, Fraport aura le droit de détruire d'un trait de plume tous les bails, parce qu'il y a des magasins dans l'aéroport, qui avaient été concédés aux différentes entreprises, en disant du jour au lendemain, bah, vous, on vous vire. Voilà. C'est...
Et, mais ce qui est impressionnant, c'est que...
Sans le moindre centime de dédommagement, bien évidemment. Mmh. Et devine qui c'est qui pourvoit au dédommagement. C'est... D'État grec.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est le souci quand même principal, c'est qu'il y avait à l'époque le plan de sauvetage en 2010 de la Banque centrale et du FMI qui était là pour sauver les meubles en fait. Ils sont en train de tout détruire finalement. C'est un peu la conclusion de l'histoire, si je peux me permettre. Donc, il y a quand même, à mon avis, il y a quand même une autre option qui était faisable à l'époque, parce que c'était le Grexit qui était évoqué. C'était qu'effectivement, ils sortent aussi de l'Europe. Moi, c'est vraiment quelque part, je suis pas assez calé dans les affaires pour en parler, mais je pense que c'était peut-être une façon de pas avoir peur de sortir de l'Europe et de constituer une Europe nouvelle.
Et c'est ce que voulait Yanis Varoufakis. Hein, mais ça. Enfin, lui, il était peut-être plus sur un rapport de force en réintroduisant la monnaie grecque, l'air de rien.
Oui, bien sûr.
C'est ce que... oui. Mais non, mais sauf que les conséquences financières ont été... Enfin, ça aurait été très, très dur hein, dans les deux premières années.
Oui, j'imagine.
Mais c'est sûr que on est à une... Enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'on sort ou pas de l'Europe, à la lecture de l'article, c'est qu'on a l'impression que les conséquences sont quand même les mêmes. C'est-à-dire que... là, on brade tout. Non,
ça, c'est un symptôme qui explique en partie le Brexit.
Oui, alors exactement. Oui. Alors, et oui. Ça, c'est clair. Et le Brexit, c'est parce que la Grande-Bretagne en a les moyens, en fait, hein, économiques, de sortir, elle, de l'Europe, ouais, sans y être vraiment entrée, serait-on tenté de dire, et qu'elle a sa monnaie. Mais surtout, là, on a l'impression qu'il y a à la fois une dévaluation intérieure. C'est à la fois une dévaluation des salaires, une dévaluation de... C'est-à-dire qu'on paye à rebours les conséquences d'une de l'intégration effectivement européenne et du, si vous voulez, de la politique qui était mise en place alors là au niveau américain et européen de crédit facile en fait hein, au cours de ces c'est ça qui a permis l'Europe. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'Europe et mais aux États-Unis aussi en fait la politique économique actuelle ont permis aussi de manger pendant des années, enfin de manger du crédit facilement pour les États, voilà, avec toutes les conséquences que l'on voit pour la Grèce, qui n'est pas forcément responsable, contrairement à ce qu'on dit, de, enfin, des errements de ses dirigeants.
Christophe,
ouais. Ah ouais, alors par rapport donc aux 14 aéroports grecs qui vont être mis sous tutelle de l'entreprise privatisée Fraport, je lis l'article parce que c'est très intéressant. Les avocats de l'opération Fraport font valoir que la rénovation d'aéroports vétustes et peu accueillants tels que ceux de Corfou ou de Santorin exige des investissements qu'Athènes ne peut se permettre. Mais d'autres solutions auraient été possibles. Les crédits de la Banque européenne d'investissement, elle sert à ça, hein, auraient pu servir à moderniser ces infrastructures. C'était l'occasion d'un investissement utile sur la durée, assurant à l'État des revenus réguliers et en progression constante. Pour qui se soucie de la stabilisation durable des finances publiques grecques, l'opération Fraport représente, de toute évidence, la pire des options possibles. C'est quand même hallucinant que la Banque Centrale Européenne, qui prélève une partie des budgets des, 20, des 28 États membres, maintenant 27, qui avait les moyens d'assurer un revenu durable pour l'État, pour la force publique, la puissance publique grecque,
n'interviennent pas finalement, et favorisent au contraire une privatisation et donc une destruction finalement à terme de
c'est absolument
de, à la fois des acquisitions,
alors que tout le monde était d'accord que l'investissement allait créer de la croissance économique et industrielle pour ce pays, qu'on avait bien besoin.
Merci à tous les deux. Donc, comme l'émission d'après n'est pas présente dans, dans la station, on va continuer par la suite, mais on va arrêter l'émission maintenant pour la rediffusion et on va reprendre ensuite la parole quelques minutes pour finir cette émission. Donc je remercie Claude et Ludo d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à Claude et à Nadège d'avoir été à la technique. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Je fais un gros bisou aux filles, une poignée de main aux garçons. Ciao.
Bonsoir.
Et oui, on reprend l'émission. Juste quelques instants pour signifier simplement que l'équipe qui était censée arriver en retard est arrivée à l'heure. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Donc cette émission finalement est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et on reprend cette émission bien sûr dans un mois pour ce qui nous concerne.
Bonne
au revoir
soirée.
À tous, au revoir.
Bonnes vacances.